Bonjour Geekzone et bienvenue dans un nouvel épisode de Torréfaction. Bonjour Caf.
Ça va ?
Oui, un petit peu décalé mais ça va.
C'est normal ça, ça arrive tous les jours.
On se retrouve comme chaque semaine donc pour un petit brief rapide des actus qu'on juge importantes, les actus de la semaine. On va commencer tout de suite avec le gaming et Destiny 2 sur Battle.net et ça te fait apparemment un petit peu chier.
Non, pas du tout.
C'est vrai ?
Non. En fait, bon, clairement, Destiny 2, j'en ai rien à foutre. Il y a des gens qui sont hypés, c'est très bien. Je n'accroche pas du tout à Destiny. Le 1, le 2 me fait pas plus d'effet. J'aime pas le design, j'aime pas le gameplay et je n'aime plus ce genre de jeu de loot, on va dire. Ce que je trouve très rigolo et à retenir de cette annonce, c'est que en fait la version PC sortira uniquement sur Battle.net, donc en fait qui s'appelle plus Battle.net, qui s'appelle le Blizzard Launcher, je crois,
ouais,
qui est donc le produit de nos amis de chez Blizzard, mais qui du coup n'a rien à voir avec un truc qui s'appelle Steam, qui est normalement, on va dire, la plateforme que tout le monde attend sur un gros titre comme ça. Je pense que ça va donc pas du tout arranger les affaires des gens qui aiment bien garder peu de jeux, parce que il faut rappeler que ce launcher ne sert que pour une poignée de titres qui ne sont normalement exclusifs à Blizzard. C'est le premier jeu qui ne vient pas de chez eux. Et si vous n'étiez pas un fan de World of Warcraft, Hearthstone, ou quand même des titres où il y a quand même pas mal de chances que vous les ayez sur votre PC, donc on va dire que ça va pas changer grand chose pour plein de gens. Mais on faisait l'inventaire avec la communauté dans l'après-midi, et là on arrive à pratiquement une dizaine de launchers par PC.
Ouais.
Donc c'est une situation qu'on peut quand même juger ridicule.
Mais Microsoft avait pas dit qu'ils allaient essayer d'intégrer ça à un moment, et puis finalement ça pas fait.
Si, ça s'appelle le Windows Store.
C'est ça.
donc ça c'est fait. Puis globalement, on peut pas dire que ça soit une situation enviable d'avoir une seule plateforme qui appartient à une seule marque.
C'est clair.
Mais le problème, c'est que du coup, on revient dans une position complètement débile avec Steam, Uplay, Origin, Battle.net, Bethesda Launcher, Good Old Games, enfin GOG, Twitch Launcher maintenant, parce qu'il y a donc Amazon a balancé son propre launcher qui est lié à Twitch, qui est une horreur d'ailleurs, hein, au passage, je vous dis, ces mecs ne savent pas coder, ils savent faire des plateformes cloud, il n'y a pas de problème, et vendre des trucs. Mais au niveau des logiciels, c'est pas possible.
Non, c'est pas ça.
Non, si vous avez utilisé les applications mobiles de Amazon Drive, enfin leur offre illimitée, vous savez de quoi je parle. On a aussi le fabuleux Epic Game Launcher pour jouer à la bêta de Unreal, au MOBA dont j'ai oublié le nom là tout de suite tellement j'y joue, mais j'avais fait une news avec une fabuleuse petite chanteuse de K-pop, donc fatalement c'était un jeu extraordinaire. Ce truc, en fait, c'est une espèce de rapper sur une page web, c'est méga lourd, c'est une horreur, donc voilà, ça c'est pareil, tu faut le tuer. Mais il y a aussi des vieux launchers qu'on a oubliés, mais celui de Hi-Rez,
ouais,
pour Smite, Paladin, Tribes Ascend, donc voilà, donc j'en ai encore oublié au passage, parce qu'il y en a qui sont vraiment dédiés à une seule marque. Donc chaque petite marque, chaque petit éditeur des fois essaye d'avoir son truc à lui, et ça devient ingérable. On repart dans des délires dans tous les sens. Mon cœur balance entre avoir un seul truc qui fasse bien le boulot et plein de trucs partout. En plus, tout le monde, ceux qui essayent de rajouter leur liste d'amis, les machins, mais alors j'ai des potes sur Origin que j'ai pas sur Steam, etc. Enfin, ça ressemble à rien, quoi.
Mais pourquoi ils essayent pas du coup de mettre en place une sorte d'interopérabilité entre toutes les plateformes, ce qu'ils essaient de faire communiquer ces plateformes, je sais pas, centraliser les listes d'amis d'une app à l'autre, pas forcément d'avoir un seul store propriétaire qui rassemblerait tout, quoi, je sais pas,
parce que le pouvoir, c'est l'argent,
c'est ça,
c'est très très simple, tout ça c'est du marketing, c'est du big data, c'est savoir quand est-ce que tu joues à quoi, est-ce que tu parles avec tes potes, et tout ça c'est des trucs qui peuvent monétiser maintenant, donc je pense qu'on n'est pas prêt d'avoir une plateforme harmonisée autour de ça.
Bon, tant pis. C'est tout pour Destiny 2 ?
Ouais.
Bon, on va passer aux apps et je vais parler d'apps plutôt orientées musique. C'est étonnant.
Jamais.
Alors, je vous ai fait un joli petit dossier sur l'histoire des trackers là, qui est sorti hier sur Geekzone, si vous voulez aller le lire. Et ça m'a permis de découvrir que, figure-toi, que Fast Tracker 2, je sais pas si tu te souviens de ce tracker sur PC, renaît de ses cendres. Il y a apparemment un mec qui a dealé avec les développeurs originaux, donc c'était les mecs de Triton, hein, qui avaient développé ça dans les années 90, mais de la scène Demo Maker. Il a négocié avec eux pour pouvoir reprendre le code source et le retravailler. Et donc, a priori, il travaillerait sur un portage de la version 2. Je crois que c'était 0.7 ou 0.9, la dernière qui était sortie officiellement sur Windows, sur Mac, sur toutes les plateformes, pour que les gens qui veulent bosser avec ça et ont pas envie de lancer une Dustbox à configurer parfois un peu difficilement pour Fast Tracker, ils pourront le faire. Donc, il y a une version alpha qui est sortie là, qui permet de tester déjà quelques fonctionnalités. Il manque pas mal de trucs, notamment l'éditeur de samples. Mais voilà. Donc, si vous aimiez faire de la musique sur Tracker, si vous aimiez Fast Tracker 2, sachez qu'il il revit là depuis quelques semaines en version alpha et vous pouvez aller télécharger gratos. Je vous filerai le lien bien évidemment dans la news. Puis je voudrais continuer sur un autre soft qui n'est pas mort, hein, c'est Soulseek. Toi, tu m'as dit que tu connaissais pas du tout Soulseek.
Non, enfin, j'avais entendu parler, mais j'ai jamais utilisé.
Non, c'est un réseau peer-to-peer qui a commencé fin des années 90, début des années 2000, qui était un réseau un peu particulier dans le sens où il intégrait aussi une espèce de notion de communauté. Donc, tu avais des chat rooms, tu pouvais te faire des listes d'amis, discuter avec les gens, aller broser dans les folders. Alors, évidemment, c'était pas du tout orienté consommation légale de musique, on va dire, mais j'y suis revenu, alors un peu contraint et forcé. Je fais pour le moment, pour un projet perso, beaucoup de recherches sur tout ce qui est maxi des années 80. Et c'est particulièrement difficile à trouver en achat légal, que ce soit en dématérialisé, alors j'en parle même pas, mais en physique aussi, c'est difficile de les trouver. Parfois, ça existe qu'en vinyle, il n'y a jamais eu de réédition et tout. Donc, même en pirate, quand tu vas chercher après sur les réseaux classiques, tu trouves pas. Et ben, sur Soulseek, tu trouves plein de passionnés de musique qui stockent toutes ces vieilles archives de morceaux perdus. Et c'est parfois la dernière ressource, on va dire, bon, un peu shady, hein, on va pas se voiler la face, mais c'est parfois un peu la dernière ressource possible pour trouver des morceaux introuvables, surtout s'ils sont pas édités officiellement. Donc Soulseek, qui s'appelle maintenant Soulseek Cutie, qui est un réseau peer-to-peer qui fonctionne pas trop mal, avec une interface parfois un petit peu difficile, mais le concept de communauté est plutôt sympa. Si vous trouvez un mec qui a plus ou moins les mêmes goûts que vous, vous pouvez aller broser son folder, et ça c'est plutôt cool, et puis comme ça vous allez perdre plein de temps et remplir votre disque dur.
Ça me rappelle les belles années de DC++.
C'est ça, ouais, bah c'est un peu le même principe en fait, c'est un peu la même idée avec un accent plus sur la communauté encore.
D'accord.
Et puis on va passer à la culture. Twin Peaks, toi tu as pas vu la série originale, je crois.
Non, enfin j'ai quelques épisodes, mais j'avoue que j'ai jamais accroché en fait.
Voilà, bah c'est une série qui a divisé, mais c'est une série qui a aussi amené pas mal de nouveautés dans le paysage télé. C'était diffusé de avril 90 à juin 91. Et il y a une troisième saison, on en a déjà parlé sur Geekzone, donc je vais pas vous refaire le topo, hein. 18 épisodes, tous réalisés par David Lynch, avec retour de plein de vieux acteurs de la série originale, mais aussi on a plein de nouveaux arrivants. Il y a apparemment un panel de guest stars. On a Amanda Seyfried, Laura Dern, Michael Cera, Monica Bellucci, j'en passe, c'est des meilleurs. Ça sera diffusé à partir du 21 sur Showtime aux États-Unis, fin du mois sur Canal Plus ici en France, et apparemment il va y avoir une première à Cannes le 25 du 5 sur grand écran. Donc on aura d'abord deux épisodes le 21, puis deux épisodes le dimanche suivant, et ensuite ce sera un épisode par semaine tous les dimanches. Donc bah voilà, il te reste trois jours pour mater les deux premières saisons et te mettre à jour.
Ah zut alors.
On va passer du côté du matos.
Oui.
Des news sur AMD.
Bah écoute, AMD qui reprend du poil de la bête, enfin en tout cas qui essaye de nous
il
faire.
Il est temps, non?
Bah je ne dirais pas de mal à AMD. Parce que, voilà, c'est les tout petits, tu vois, c'est le challenger qui a du mal, qui s'est fait écraser pendant des années par Intel au niveau des CPU et qui a survécu avec des produits un peu, on va dire, de niche. Quoique, ouais. Est-ce qu'on peut vraiment parler de produits niche puisque c'est eux qui fournissent, je le rappelle, les CPU de nos amis les consoles. PlayStation 4 pardon, et Xbox One en tête de liste. Et là ils ont l'air d'avoir une technologie avec le Ryzen qui commence à bien faire parler d'elle, et les tests ont l'air plutôt bons sur les modèles qui sont déjà disponibles dans le commerce. Et ils continuent sur cette lancée et ils viennent d'annoncer mais pas vraiment, parce qu'en fait c'est des annonces qui sont des annonces de call financier. Quand ils annoncent leurs résultats, ils aiment bien parler de l'avenir,
ouais,
pour rassurer nos amis
les investisseurs,
voilà, les maîtres des brousoufs. Et du coup, on n'a pas toutes les infos. Donc là, ce que je vais vous balancer, ce sont des infos qui sont parcellaires. Et la vraie annonce, ça sera la fin du mois de mai, pendant le Computex, qui est un gros salon à Taïwan.
D'accord.
Donc le premier, enfin il y a plein de trucs, ils ont annoncé plein de trucs, ils ont annoncé des processeurs, des systèmes on a chip, etc., des processeurs pour serveurs. Nous, ce qui nous intéresse plus sur Geekzone, ça va être un CPU qui s'appelle le Ryzen Threadripper. Alors ce nom guerrier, comme on n'en avait pas eu depuis très très longtemps, hein. Ils avaient évité de faire dans le marketing débile, et ben là on y retourne un petit peu. Pourquoi ils l'ont appelé comme ça? Parce que ça va être une puce avec 16 cores, donc je vous rappelle qu'on en a 4 généralement là, hein, et 32 threads. Donc on est quand même sur un truc où d'habitude nous les standards habituels c'est 4 et 8, donc là on passe sur du 16-32, ça risque de faire très mal, mais c'est surtout utile pour pouvoir encoder des vidéos, enfin faire des trucs un peu pro pour le jeu vidéo. Je l'avais déjà expliqué, mais c'est pas forcément hyper intéressant, en tout cas encore aujourd'hui. Ça sera le cas bientôt, mais pour l'instant c'est pas magique. Donc on pense que ça va être un concurrent pour le Skylake E, qui est un pros qu'on ne connaît pas de chez Intel. En fait on n'a pas toutes les infos, donc on nage dans la rumeur, mais on sait que ça va être un CPU qui va débarquer avec une nouvelle carte mère, une plateforme qui va booster la bande passante pour la mémoire, pour les entrées sorties. Donc voilà, maintenant il reste juste à attendre. On sait juste que ça va encore bouger cet été, et si vous avez un PC à changer,
ouais,
vous pouvez attendre.
Ok, ça m'arrange.
Et dans la foulée, ils ont aussi annoncé un autre truc côté GPU, qui s'appelle la Radeon Vega Frontier Edition.
C'est de mieux en mieux.
Il faut mettre la petite musique de Star Trek derrière, je pense que ça fera ça un effet buff. C'est encore un CPU en fait qui vient se présenter en face du truc dont on parlait la semaine dernière d'ailleurs, qui s'appelle le Volta chez Nvidia, et ce sont pas du tout des processeurs dédiés aux jeux vidéo et aux trucs graphiques classiques. C'est des trucs pour l'intelligence artificielle, le machine learning, et puis le marché un peu pro de la 3D, etc. Mais l'avantage c'est que ce sont des marchés qui permettent en fait de développer des technos très haut de gamme, qui derrière sont recustomisés plus pour s'attaquer au marché du jeu et pour des cartes qui vont coûter moins cher, parce que là on est sur des bécanes qui vont coûter à mon avis largement plus de $1000. Donc voilà, mais la bonne nouvelle c'est que les premiers chiffres annoncés sont excellents, et que du coup ils ont pas l'air ridicules en face de la génération actuelle de Nvidia. Pour la prochaine, bon bah ça restera à voir, hein. Je pense qu'ils vont se faire défoncer, mais c'est déjà pas mal parce qu'ils reviennent de très très loin, et je pense que on peut quand même être un peu optimiste pour 2018 pour AMD, et comme la concurrence est bonne pour nos porte-monnaies, bah j'espère que ça sera le cas.
Ouais, c'est vrai que moi je suis pas trop l'actu hardware, mais j'avais beaucoup entendu dire que AMD c'était en train d'aller vraiment très très mal, donc ça a l'air plutôt rassurant ça, ces annonces.
Donc techniquement ils ont perdu de l'argent pendant plusieurs années, des sommes colossales, et on voyait pas trop comment ils allaient sortir du gouffre, donc là c'est plutôt de très bonnes nouvelles.
D'accord, on va passer du côté de la tech avec le Google I.O. Il y a eu des annonces évidemment, et là on a un paquet de trucs à dire, enfin tout en particulier.
Ouais, alors Google I.O. c'est quoi? C'est la grande messe annuelle de Monsieur Google qui présente à peu près tous leurs nouveaux projets. Donc on va vous mettre un lien sur le site, vous aurez tous les trucs, parce qu'il y en a un milliard, parce que Google c'est tentaculaire, donc ça va de des nouvelles avancées pour la réalité virtuelle, pour les voitures automatisées, etc. Donc moi j'ai retenu le truc le plus important, on vous en parler tout de suite, parce que c'est vraiment c'est vital quoi, on va enfin se débarrasser des emojis dégueulasses d'Android.
Faut savoir que CAF lobby pour les emoticons, enfin les emojis pardon, de l'iPhone depuis très très longtemps, surtout sur Slack, sur Discord, etc. Ouais,
c'est parce que j'explique aux gens vite fait, mais sur les plateformes souvent on a le choix entre plusieurs sets d'emojis, donc plusieurs designs différents, et ils sont tous moches généralement, et le set Android je le banne à chaque fois, c'est pas possible de voir ce truc. Pourquoi? Parce que à la base il a évolué pour devenir, au lieu d'avoir des petits smileys ronds tout mignons, c'était le blob, une espèce de flambi dégueulasse qui ressemblait à rien. Donc ce truc là il dégage. Et sur Android O, la prochaine version, on va enfin avoir des emojis potables, et qui sont même plutôt mignons, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. En revanche, il y a un truc que je comprends pas vraiment sur les emojis, et là vraiment aller sur les, j'ai pas fait de recherche, j'avoue, hein, j'ai pas fait mes devoirs, mais sur le forum, expliquez-moi pourquoi tout le monde réinvente la roue sur les emojis en permanence. Facebook fait ses emojis, Apple a le sien, il y a Emoji One qui a son set qu'ils essaient de standardiser, bon courage les mecs. Donc Google qui vient de refaire les siens, je veux dire, c'est quoi votre problème les mecs? Faites-en un et je sais pas, partagez-le. Tu vois, on parlait tout à l'heure des plateformes en commun pour le pour les launchers de jeux vidéo. Bah voilà, rien qu'un truc avec pour faire des petits bonhommes rigolos, ils n'y arrivent pas. Quoi. C'est quand même un truc de fou.
Donc ça, c'était l'annonce, la grosse annonce, on va dire.
Alors, Ouais, ça c'est l'annonce la plus importante. Alors un peu parce qu'après on s'en fout, tu vois. Kotlin, nouveau langage de programmation incroyable pour Android qui a l'air vachement bien. Bon bah ça, vous irez cliquer sur le lien. On va pas se fatiguer. Non, blague à part, les trucs super importants pour les utilisateurs normaux, c'est les avancées sur du côté de Lens. Lens, c'est une techno de reconnaissance d'image qu'ils utilisent à peu près dans toutes leurs applis maintenant, et qui devient assez flippante, on va le dire, hein, tellement elle est forte. Donc maintenant, en gros, c'est capable de parser, enfin d'analyser une image et pour faire une action directement avec. Donc par exemple, vous prenez une photo de votre code barre, par exemple sur votre box internet avec votre clé Wi-Fi, et le téléphone qui vient de prendre la photo, il a même pas besoin de prendre une photo. Hein, d'ailleurs, vous passez l'image devant et hop, il peut se connecter sur ce Wi-Fi automatiquement.
D'accord.
Des trucs pas flippants du tout. Donc, hein. Mais blague à part, ça peut être d'avoir des infos sur un resto avec les critiques du resto juste en pointant votre téléphone vers la devanture du restaurant. Donc, qui va faire directement le lien entre votre position, la devanture, il va réussir à lire le nom du restaurant, etc. Donc, c'est voilà, bah ça c'est le futur. Hein.
Ouais.
C'est, ça fait partie des trucs qui, par contre, vont pareil nous changer la vie. Par exemple, bah reconnaître un acteur dans une série télé, etc. C'est ce qu'on fait déjà de manière un peu magique depuis des années avec le son et les musiques. Bon, bah là, on pourra l'avoir avec le visuel. Et voilà. Donc après, je vous laisse juger si c'est bien, si c'est mal, si c'est flippant, si c'est pas flippant. Les autres grosses annonces, c'était surtout ce qui était mobilité, avec les nouvelles versions d'AMP. AMP, c'est un truc qui va arriver sur Geekzone dans pas très 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 longtemps. En tout cas, on va y bosser, qui est en fait un système de chez Google pour afficher les pages web mobiles de manière hyper rapide.
D'accord.
Et comme les liens Google et le classement des sites sur notre ami le moteur de recherche de Google sont liés aussi aux rapidités d'affichage, il est important d'être mobile et rapide.
Oui.
Donc, il ne nous laisse pas beaucoup de choix. Et l'autre truc qui va avec, c'est la démocratisation des progressives web apps. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une PWA ? Ce n'est pas une maladie qui s'attrape. C'est un terme qui regroupe pas mal de trucs, mais maintenant, en gros, ce sont des applications web que vous pouvez lancer sur votre téléphone sans avoir rien à installer, en fait. Donc, c'est pas vraiment une application web, c'est pas vraiment une application native, c'est entre les deux.
D'accord.
Donc, ça, c'est une des grosses avancées sur lesquelles ils bossent depuis très longtemps, mais qui était limitée à quelques tests, enfin, à quelques éditeurs. Et maintenant, n'importe qui va pouvoir mettre sur le store des Progressive Web Apps et les proposer directement sur leur site web, etc.
D'accord.
Mais je pense qu'il faudra faire un petit papier pour déblayer un peu le sujet. C'est un truc, moi, du côté pro, j'ai écrit pas mal dessus pour des clients, mais pas pour Geekzone, et il va falloir que je corrige ça.
D'accord. C'est tout ce qu'il y avait à retenir du I.O.
Il y en a plein, donc on en reparlera sur le forum directement, mais je vais vous mettre les liens, et en fonction des sensibilités de chacun, il y a plein de trucs. On pourrait parler de la VR, ils ont fait une démo qui a décroché la mâchoire de plein de gens avec une scène de Star Wars.
D'accord.
Qui a été refaite pour leur système de VR autonome, qui est aussi une annonce de Google I.O. Directement en balançant la scène de Star Wars dans une moulinette, et hop, tu te retrouves en réalité virtuelle dans la salle avec le robot à la fin, tu sais.
Okay.
Et bon, bah voilà, ça calme. Bon, après, il y a plein de trade-offs et ça triche de partout, mais c'est hyper intéressant, et les mecs voudraient en faire un système très 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 rapidement pour faire du multimédia, de la formation, etc.
Donc voilà, pour toutes les autres annonces du Google I.O., on vous filera le lien, vous pourrez aller décortiquer ça par vous-même. Là, on vous a fait le point sur les trucs qui nous semblaient être importants. On va rester dans le monde de la tech avec deux petites, une espèce de mini coup de gueule rapide de ma part. D'abord, sur WannaCrypt, vous avez tous entendu parler de cette infection qui a eu lieu, c'était quoi, il y a une semaine maintenant, 10 jours, je sais plus.
Ouais, à peu près, ouais.
Voilà, donc en gros, c'est une faille au niveau de Samba sur Microsoft, sur les OS de Microsoft, pardon, qui a été patchée en mars, qui a été leaké avec des outils de la NSA en avril, et puis du coup tout le monde s'est mis à développer ces petits ransomware. Ça a pété il y a pas longtemps, et en gros tout le monde est touché sauf les utilisateurs de Windows 10 et les gens qui ont patché. Alors c'était l'origine de mon envie de faire un petit coup de gueule. J'entends souvent et je lis souvent sur les forums, sur Discord, des gens qui patchent pas parce que mais ça fait planter mon driver machin et ça marche plus comme avant. Franchement, allez-y, patchez vos OS, parce qu'on n'aurait pas ce genre de merde à gérer. Je plains les admin 6, enfin je sais pas si t'en as dans ton entourage, mais à mon avis ils ont dû passer un bon moment, un bon week-end au moment où ça a pété. C'est super important de faire les mises à jour, même si des fois fois ça amène des bugs aussi, c'est quand même super important. Pour le coup, Microsoft, je trouve, a été super réactif. Faut savoir que le gros problème de WannaCrypt, qu'on appelle aussi WannaCry, c'est qu'il s'attaque aussi à XP, qui a encore plein d'entreprises qui ont pas les thunes pour faire les mises à jour vers les nouveaux OS. C'est que malheureusement Windows XP est plus supporté déjà depuis un bon moment, donc il y a plus de patch, et Microsoft a décidé d'en sortir un dans l'urgence pour essayer d'endiguer un peu le phénomène. Ça a l'air de plutôt bien se passer. Puis tu me disais qu'il y a un développeur français là qui apparemment a trouvé une faille qui permettrait peut-être de décrypter une partie des fichiers, mais c'est pas sûr.
C'est sur Windows XP en fait, une boîte française qui apparemment a trouvé un moyen de décrypter, de récupérer ses datas sans payer le moindre euro. Mais j'ai lu ça juste avant qu'on commence à enregistrer ce podcast, puisque la news vient de tomber, donc je n'ai pas toutes les infos.
Bon, on vous la linkera avec, et comme ça on ira voir ça de plus près. Et puis le deuxième petit coup de gueule, le MP3, on en a beaucoup parlé cette semaine. Non, il n'est pas mort, hein, Caf, il est toujours bien là.
Non, mais je vois même pas pourquoi les mecs ont dit qu'il était mort, puisque maintenant, donc, il est libre de droit, donc il est plus vivant que jamais.
Voilà, c'est ça. Donc, c'est la fin des brevets, en fait, pour Fraunhofer, hein, qui était le détenteur du brevet MP3 dans une partie du monde. Donc, voilà, ils ont pas l'occasion de le renouveler. Donc, ça tombe dans le domaine public, ça devient open source, on peut en faire ce qu'on veut. Il y a du coup pas vraiment de raison de penser qu'il va mourir. Au contraire, il y a peut-être une chance. Enfin, après, c'est toujours la roulette russe de l'open source, hein. Soit il va rien se passer et il va crever, soit effectivement les gens vont reprendre le format, l'améliorer, en faire quelque chose d'un peu mieux et qui pourrait rivaliser avec la concurrence aujourd'hui, ce qui n'est plus le cas, on va pas se mentir. La seule chose qui le maintient encore un peu en vie, c'est qu'il est ultra populaire et puis il est surtout encore très utilisé par les plateformes, comme je le disais dans le petit papier que j'ai fait sur GZ, hein. Google, c'est du MP3, Amazon, c'est du MP3. Il y a vraiment que sur iTunes, c'est du AAC chez
ouais,
iTunes.
Voilà. C'est leur techno, ouais.
Et Spotify qui est en streaming utilise le GG, mais sinon, globalement, il y a encore de gros monstres derrière le MP3, donc pas de souci, n'est pas mort. Et puis, si vous voulez plus d'infos, allez lire le petit papier que j'ai écrit sur le sujet. C'était mon mini coup de gueule, mais on va passer au vrai coup de gueule maintenant avec le coup de gueule de Jean-Pierre Caff.
On va me dire, oui, vous êtes un con, vous allez jeter ça. Oui, je le jette, parce que ça, c'est honteux, ça. C'est de la merde.
Alors, sur quoi tu vas ranter cette semaine ?
Sur un truc qui nous concerne tous, qui est très grave. Il faut que ça cesse. C'est sur les algorithmes qui viennent bizarrement quand même souvent de la même boîte. Hein, Marco Zuckerberg, qui a décidé de nous aider à faire le tri dans nos données. Ah, et mon donc, Dieu. Mon coup de gueule concerne tous les algos de tri pour faciliter votre lecture et vous aider à ne rien rater de l'actualité de vos amis adorés. Donc, dans l'ordre, on a quoi ? On a Facebook, ce truc horrible qui donc arrive à me servir les mêmes news toute la semaine, les mêmes statuts des mêmes potes alors qu'il s'est passé un milliard de trucs, donc je vous confirme que ça marche vachement bien. Même quand il y en a un qui arrive à repopper alors que j'ai cliqué ne plus voir, tu vois, ça je veux pas bloquer la personne, je veux juste ne plus voir ce truc là, je me fous que les gens commentent sur ce truc là, et ça continue.
Alors moi, le truc qui m'énerve le plus sur Facebook, c'est ce besoin qu'il a de te faire repasser en top stories à chaque fois que tu reviens sur le site. Tu sais, t'es à top stories ou more recent.
Mais oui, mais parce que les top stories, c'est le truc qui est prié pour m'énerve. Toi. Mais parce que, monsieur Fasquille, vous êtes un petit peu limité et Facebook t'aide, tu vois, parce que tu sais pas cliquer. Toi, apparemment, on sait pas cliquer. Donc maintenant, ce système du cancer est arrivé sur Instagram.
Ah merde.
Avant, Instagram, c'était... Donc ça fait quand même un moment maintenant que c'est comme ça. Mais Instagram, avant, tu comprends, c'est vachement trop compliqué. C'était juste une timeline inversée. T'avais les nouvelles photos en haut et puis tu remontais, tu vois. Et là, ils se sont dit, oui, mais les gens, il y aura trop de contenu. Parce qu'évidemment, les Mongols, ils suivent 200 000 personnes. Donc forcément, tu peux pas regarder tout le monde. Donc là, ils se sont dit, on va faire des analyses et puis vous remontez les trucs les plus importants en premier. Mais non, laissez-moi tranquille, les mecs. Enfin, je veux dire, c'est mon problème. Qu'ils le fassent, mais je dis très bien, mais qu'il n'y ait pas une option pour dire foutez-moi la paix, ouais. Ça me rend fou, ouais. Quoi. Parce que on râle sur Facebook, mais on a encore le moyen de cliquer pour repasser sur le système chronologique normal, même si ça saute à chaque fois, comme tu viens de le dire. Ouais. Mais on n'a même pas ça sur Instagram. Sur Instagram, ils ont décidé que c'était va te faire foutre de base. Donc voilà, et Twitter donc s'y est mis avec sur leur feed de base. Mais bon, là j'ai même pas envie de râler parce que si vous utilisez Twitter sur le web, déjà je peux rien pour vous. Et si vous utilisez l'application officielle, je ne peux rien pour vous, x2. Toutes les plateformes, mais surtout iOS, on va pas se mentir, ont des clients qui sont très très bien. Je sais, on n'a toujours pas la conversation multigroupe, par exemple. Mais ça, c'est parce que...
c'est pas dans l'API.
C'est pas dans l'API et ils ont décidé de bloquer ce truc-là. Ouais. Maintenant, c'est en train de bouger, donc je ne serais pas étonné que ça change un jour, parce qu'ils sont en train de se rendre compte que verrouiller des fonctions, ça les sert pas, en fait. Donc, ils viennent de rajouter les photos, par exemple, dans la nouvelle API. Pour les messages directs, je veux dire. Avant, c'était pas possible d'envoyer une photo en DM via un client tiers. Donc ça, ça a changé, donc on verra. Mais voilà, tous ces trucs d'algo, j'en ai certainement oublié, hein, n'hésitez pas à me dire lesquels vous énervent au plus haut point. Mais c'est le fait, c'est pas le fait qu'ils essayent d'améliorer l'expérience utilisateur, parce que la base, c'est pas juste de vous aider, c'est aussi de rentabiliser au maximum la plateforme, de vous placer les publicités exactement là où ça les arrange. On va pas se mentir, le nerf de la guerre, il est là. Mais de pas avoir une option pour se barrer et dire non les gars, je veux un truc chronologique simple, ça me hérisse au dernier degré, je n'ai pas d'autres mots.
Et c'est super fourbe sur Facebook, parce qu'en fait quand tu vas sur ce petit onglet où tu peux passer de Most Recent à Top Stories, en fait t'as un truc en dessous qui est Edit Préférences. Je me suis dit ah putain, ils ont intégré le truc, et en fait quand tu cliques dessus, ça te permet simplement de régler les préférences pour les Top Stories. Donc voilà, je pense que le message est clair de la part de Facebook, la chronologie c'est pas leur truc en fait.
Surtout que j'en rajoute une petite couche, pour passer en mode chronologique sur l'application mobile, c'est planqué dans un menu de sous-menu de sous-menu que personne ne sait où il est déjà à la base, et je trouve ça juste mesquin. Voilà.
Eh ben, c'est tout pour cette semaine. T'as plus rien à ajouter?
Non, j'aurais plein de trucs à vous raconter, mais on va en garder pour la semaine prochaine.
On va juste rappeler aux gens que s'ils veulent nous filer un petit coup de main et nous aider à mettre du parmesan dans les pâtes, hein,
c'est le parmesan.
Voilà, il y a le Patreon, hein, vous allez sur geekzone.fr, vous suivez le guide et vous mettez la main à la poche. Comme vous pouvez, nous, ça nous aide beaucoup, et puis c'est toujours apprécié, ça valorise un peu notre taf aussi. On se retrouve vendredi prochain 9h pour un nouveau Torréfaction, et puis d'ici là, bon week-end, Kef.
Allez, bon week-end, ciao.
Ciao.
Un podcast signé Faskill. Faskill.com.
Des actus, des dossiers, des tutos, des podcasts, Geekzone, c'est le site de la culture geek sous toutes ses formes. Et aussi une communauté en or. Retrouvez-nous sur geekzone.fr et soutenez-nous via Patreon. Geekzone.fr, par des geeks, pour des geeks.
Est-ce qu'un jour on remplacera nos repas par de la poudre? Qu'est-ce qu'il se passe dans nos têtes quand on rêve? Partir en vacances sur une exoplanète, c'est pour bientôt? Les réponses à ces questions et bien d'autres, c'est dans Ramène ta science, le nouveau podcast scientifique de Geekzone. Avec Dr Saucisse, l'ami Bini et Faskill aux commandes, on vous parle de sujets peu connus, de sujets mal connus ou de sujets qui trimballent leur lot d'idées reçues en décryptant leur impact sur notre quotidien. Ramène ta science, RTS, c'est votre nouveau rendez-vous scientifique et c'est sur geekzone.fr.
Les clairvoyants, c'est le rendez-vous mensuel de Geekzone présenté par Faskill, Fox Monsieur et Archeon, un podcast d'une heure sur le MCU, le Marvel Cinematic Universe, des news, du theorycrafting rigolo, des focus avisés pour tout vous apprendre sur l'univers Marvel, et bien entendu un peu de musique. Pour découvrir tout ça, rendez-vous sur geekzone.fr, on vous y attend, amis True Believers.
You're gonna break your old man's heart.
If I have to.
Nobody has to break anything.
Clearly, you've never made an omelet.
You beat me by 1 second.